13h est une présentation de Marie-Françoise Ewolo.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. Temps plein pour vacances et loisirs, des programmes sur mesure pour les élèves qui ont besoin d'un grand bol d'air après une année scolaire bien remplie. C'est l'heure des grands départs vers des destinations connues ou inconnues, accompagnées ou non, des multi-sensations sont au programme. Travaux champêtres, séjours toniques en ville pour des activités sportives, des randonnées, des voyages d'études. Les parents ont le choix pour les enfants et les agences de voyage. Par bus ou par train, affiche complète. Dans le 13h, le dossier de la rédaction. Et réhabilitation du tronçon Etoudi Total Yannick, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, lance les travaux ce jour. C'est un ouf de soulagement pour les populations installées sur cet axe et surtout pour les automobilistes. Les travaux vont durer 6 mois et seront exécutés par la société Shi System Sarle. Dans le 13h, nous écouterons le maire de la ville. Le Hadj vit ses dernières heures. Les pèlerins camerounais s'apprêtent à rallier la Mecque après un séjour de 3 jours à Mina, une bourgade qui concentre l'essentiel des rites du pèlerinage en Terre Sainte. Les pèlerins ont pu vivre et apprécier la jonction entre la foi et les bonnes affaires. Beaucoup de souvenirs dans les bagages. Les séquences fortes que nous relate l'envoyé spécial de la CIAR TV à la Mecque. En sport, 23e championnat d'Afrique senior d'athlétisme. Dans 3 jours, la ville de Douala va vibrer au rythme du plus grand événement sportif continental. 5 délégations étrangères sont déjà sur place. Les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme arrivent ce mardi. Et puis handball, championnat national d'élite 2024, la succession de FAP en messieurs et fans en zone, en dames est ouverte. Les favoris ont tous réussi leur entrée dans la compétition le week-end lors de la première journée. Haine en ligne, paix en berne. L'ONU sonne l'alerte. C'est 18 juin et journée internationale de lutte contre les discours de haine. La journée consacrée par les Nations Unies est un rappel au ravage que ces discours impropres à la morale et à la cohésion sociale génèrent dans la société. Et c'est sur la toile que ces messages prolifèrent. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, rappelle dans son adresse de circonstance que la haine est un feu qu'il nous faut éteindre sans tarder. Gilles-Claude Bonitundi.
Les visages de la haine sur la toile ne sont pas voilés. Racisme, différences religieuses, conflits ethniques, croyances ou affiliations politiques. Une étude menée par l'UNESCO dans 16 pays en 2023 montre que les discours haineux restent omniprésents sur Internet. 8% de personnes handicapées, 13% de personnes en surpoids, 17% de minorités religieuses ou encore 28% de minorités raciales ou ethniques ont été régulièrement exposées à la haine en ligne. Le secrétaire général de l'ONU ne mâche pas ses mots, il n'y a pas de niveau acceptable dans les discours de haine et nous devons toutes et tous nous efforcer à les éradiquer. Dixit Antonio Guterres, les épisodes sombres de l'Allemagne nazie, du Rwanda et de la Bosnie entre autres nous parlent. Les jeunes qui sont les plus connectés sur Internet sont aussi les plus vulnérables. 40% des jeunes de 15 à 24 ans ont été les victimes ou les témoins de discours de haine en ligne l'année dernière. Les plateformes numériques sont débordées par la montée du mal. 85 000 vidéos YouTube et 1,6 million de contenus haineux chez X ont enfreint la politique de ces plateformes en 2023. Mais tout n'est pas perdu selon Antonio Guterres. La stratégie et le plan d'action de l'ONU contre les discours de haine incluent la sensibilisation à la tolérance par le numérique. L'ONU mise sur l'éducation et le renforcement des partenariats entre ses différents États membres.
Les discours de haine aujourd'hui se propagent à une vitesse grand V et avec une portée nocive sans précédent grâce aux outils numériques et sur les réseaux sociaux. Pour combattre le phénomène, les Nations Unies ont mis en place des mécanismes législatifs qui, à travers le droit international, exigent aux États se doter des lois pour prévenir et lutter contre les discours de haine. C'est par exemple le cas du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui traite de ce sujet dans son article 20. Voici les explications de Rigobert Quin-Mounier. Il est expert en droit numérique. Il est au micro d'Agnès Sylvie Nanzama.
Le document qui permet de régler les situations de discours de haine, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est un document, au-delà de l'aspect des rapports juridico-politiques, établit également des rapports de sociabilité. C'est la raison pour laquelle les éléments sur les discours de haine et autres y sont inclus. Par exemple, les Nations Unies ont défini en 2019 une stratégie et un plan d'action de lutte contre les discours de haine. Donc, c'est une obligation pour les États de s'arrimer sur cette stratégie et sur ce plan d'action pour limiter ou diminuer au plus grand niveau les discours de haine diffusés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet ou alors en ligne. Le droit international s'applique pleinement.
En diplomatie, concertation entre Yaoundé et Washington à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Guthrie, a reçu ce matin en audience une délégation des parlementaires américains qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christophe Lamora. Au menu des échanges, les questions sécuritaires, sanitaires et humanitaires. Voici le compte-rendu d'audience avec Laurentine Bocono.
Ciel étoilé entre Yaoundé et Washington. Les échanges aux premières heures ouvrables de ce mardi 18 juin entre le premier ministre chef du gouvernement et ses hôtes américains emportent témoignage. Significative est l'heure de l'audience. 8h30 pour faire entrer la délégation des parlementaires américains sous la conduite de Christophe Lamora, ambassadeur des États-Unis au Cameroun. French Hill est un homme politique américain, membre du Parti républicain, représentant de l'Arkansas à la Chambre des représentants des États-Unis depuis 2015. Chrissy Houlahan est une femme politique américaine, membre du Parti démocrate, élue en novembre 2018. Elle représente la Pennsylvanie à la Chambre des représentants des États-Unis. En une demi-heure, les dossiers sécuritaires, sanitaires et humanitaires ont été passés en revue. Nous félicitons le Cameroun pour son élection à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré French Hill, qui a salué par ailleurs le partenariat fructueux et les efforts du Cameroun en matière sanitaire et dans la lutte contre le terrorisme.
My name is French Hill. I'm a member of Congress.
Je me nomme French Hill, membre du Congrès américain de l'État de Arkansas. Je suis avec Chrissy Houlahan, membre du Congrès de l'État de Pennsylvanie. Nous sommes ici pour dire merci à l'État du Cameroun pour l'excellent partenariat que nous partageons ensemble dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Nous avons aussi saisi l'opportunité pour parler des sujets de santé dans la lutte contre la tuberculose, le sida et le paludisme. The President's Emergency Plan for AIDS, plus connu sous l'abréviation PEPFAR.
Fight against HIV/AIDS under PEPFAR and also fighting malaria.
À l'entame des échanges, le premier ministre chef du gouvernement a présenté le contexte sécuritaire dans les régions en crise. Malgré tout, le Cameroun a su préserver son intégrité territoriale. Enfin, les hôtes du premier ministre ont rassuré sur leur disponibilité à soutenir les grands projets économiques de notre pays. À coup sûr, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Immeuble Étoile, Laurentine Bocono, CRTV.
Ce message du président de la République à son excellence Wavell Ramkalawan, président de la République des Seychelles. Monsieur le président et chers frères, j'ai le plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration le 18 juin de la fête nationale de votre pays. J'y joins mes vœux de paix et de progrès pour la nation seychelloise. Veuillez agréer, monsieur le président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biya. 65 milliards pour financer l'élevage et la pisciculture au Cameroun. Une convention de partenariat existe désormais entre le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales et la Commercial Bank Cameroun pour une durée de 5 ans. Les documents ont été parachevés ce mardi entre le docteur Taïga et le directeur général adjoint de cette structure bancaire, Jean-Élisée Guater. Voici les détails avec Ariel Olivia Mobué depuis le Hilton de Yaoundé. Bonjour Ariel Olivia.
Bonjour Marie-Françoise. Cette convention qui va s'implémenter à travers le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture PDCVEC concerne les filières piscicole, bovine et porcine. L'approche chaîne de valeur a été retenue pour renforcer la productivité et la compétitivité des dites filières. Elle fixe les modalités de financement pour la mise en œuvre des filières de l'élevage et de la pisciculture. C'est une possibilité qui est offerte ainsi aux jeunes entrepreneurs afin de créer des emplois. Cette synergie Minepia Commercial Bank Cameroun va également accroître la qualité hygiénique des produits porcins, bovins et piscicoles. La dite signature apparaît comme une contribution à la politique d'import-substitution qui passe par l'accompagnement des éleveurs. Pour la bonne marche de ce projet, les bénéficiaires issus des 10 régions vont expérimenter à titre pilote les mécanismes de financement des jeunes par incubation. Il faudra pour ces éleveurs remplir les conditions requises. Hilton Hôtel, Ariel Olivia Zoua pour le 13h.
Vous écoutez le 13h, il est 13h passé de 10 minutes à Yaoundé. De l'espoir pour les usagers du tronçon Marché Etoudji Total Yannick à Yaoundé. Les travaux de réhabilitation de cet axe de la voirie municipale viennent d'être lancés par le maire de la ville, Luc Messia Tangana. Les travaux exécutés par l'entreprise Chi System Sarl devront durer 6 mois et visent à la fluidité, à fluidifier la circulation dans cette partie de la capitale. Voici le reportage de Charles Abosolo Oba.
Sur un linéaire de 400 mètres, pelleteuse et camion ben s'activent. Sur ce tronçon, devenu impraticable entre le marché Etoudji et le lieu-dit Carrefour Total Yannick, les techniciens ont du pain sur la planche. Il faut accélérer les travaux pour rétablir la circulation. Denis Awono, chef chantier.
Il est question de faire un nettoyage systématique. Après, nous allons procéder à l'étude du génie civil. Le génie civil consistera à faire les caniveaux et poser les bordures bétonnées. Et la dernière étape consistera à poser le béton bitumineux.
Le maire de la ville, Luc Messia Tangana, est venu lui-même donner le ton de ses travaux de réhabilitation, de quoi rassurer les usagers après des années de calvaire. Rosalie Meyebi, commerçante.
Les clients viennent caler au carrefour puisqu'il n'y avait plus la route, il n'y avait plus le passage. Et je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui, si vraiment la situation peut être décantée.
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois, mais l'entreprise adjudicataire promet de livrer le chantier dans 3 mois, si la météo le permet.
Écoutons à présent le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, revient sur l'apport de ses travaux dans l'aménagement de la ville de Yaoundé. Il est au micro de Charles Abosolo Oba.
Il y a d'abord le souci d'améliorer la mobilité dans cette zone d'Etoudji, dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Il y a l'aspect assainissement, permettre que les eaux pluviales puissent circuler normalement. Il y a également l'aspect lutte contre l'insalubrité, parce que pour ceux qui connaissent la zone, les déchets étaient répandus un peu partout. Au niveau de la chaussée, d'après les études techniques, il y aura 2 sections. Une section qui sera recouverte avec de l'enrobé et l'autre section qui sera faite en pavé. Ils se font sur fonds propres de la mairie de la ville. Il y a également le volet bouchage des nids de poules qui se poursuit.
Modernisation du service public, le nouveau CJPES rentre dans une phase importante de son élaboration, celle de son fonctionnement en parallèle et dont la préparation démarre ce 18 juin. Et ceci au lendemain de la 7e session du comité interministériel présidé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Le coordonnateur national de la Task Force de travail pour la mise en œuvre du projet, par ailleurs directeur général du budget au ministère des Finances, explique la pertinence de cette étape et relève les mutations qu'apporte le nouveau CJPES dans la gestion de la solde. Cyril Edoualo est au micro d'Agnès Sylvienne Anzama.
La solde s'en trouvera beaucoup mieux maîtrisée, beaucoup mieux suivie. La non-accumulation des arriérés. Il n'y aura plus les problèmes de rappel en mémoire. Il y a la célérité dans le traitement des dossiers de solde. Également, un avantage important, l'assainissement automatique, les doubles matricules, les abandons de poste et les décès. Il y a la bonne liquidation des droits à pension. Déployer le système en parallèle au système existant. L'enjeu est de permettre de rouder le CJPES 2 pour permettre que le passage entre les systèmes actuels et le CGPS2 se fasse sans difficulté. Et ça permet aussi que les agents publics qui vont travailler dans le nouveau système commencent déjà à travailler dans ce système-là, dans leur environnement actuel de travail. Selon les instructions qui ont été données par le ministre de la fonction publique, président du comité et le ministre des Finances, vice-président du comité, pour que ce système soit déployé.
Année scolaire 2023-2024, place aux vacances. Si les derniers établissements scolaires remettent aujourd'hui les bulletins de notes, les élèves, pour leur part, vont passer des vacances bien loin des établissements scolaires. Une période où il faudra bien concilier apprentissage et loisirs. Toussaint Bemagna.
Concilier apprentissage et loisirs pendant les vacances 2024 ne va pas déroger à la règle au regard des résultats obtenus par le passé grâce à des initiatives entreprises par certaines structures. Prenons le cas du projet Vacances détente loisirs qui occupe les enfants de 8 à 16 ans pendant les vacances scolaires par des activités ludiques et éducatives. La finalité ici est d'éveiller la conscience des parents sur les méfaits de l'oisiveté et contribuer à un meilleur encadrement des enfants pendant cette période. Autre cas illustratif à mentionner ici, l'opération Vacances Secours Loisirs, initiée par la Croix-Rouge camerounaise. Des centaines d'enfants mettent cette période à profit pour s'initier aux petits métiers, aux gestes de premier secours, aux jeux d'animation, chant, dessin, peinture, toutes choses qui devraient permettre aux enfants d'acquérir des connaissances complémentaires et mieux s'épanouir dans la société. L'Institut national de la jeunesse et des sports, pour sa part, propose aux vacanciers plusieurs activités sportives comme la gymnastique, la lutte de basket, la boxe ou encore le tennis. À tout ceci, il faudrait ajouter des colonies de vacances, un autre cadre d'apprentissage et de loisirs avec en prime l'évasion des vacanciers vers un coin du pays à découvrir. Toutes ces activités permettent aux enfants de passer des vacances utiles tout en faisant des projections sur leur avenir.
Tous les examens officiels sont terminés. C'est donc un air de vacances qui plane chez les derniers élèves. Le lieu des vacances avant la reprise des classes intéresse aussi bien les parents que leur progéniture. Les cités balnéaires et les campagnes sont les choix des uns et des autres. Daniel Sopon.
Mon sac, je vais seulement visiter la plage. Je peux aussi voir comment ça fait d'aller à la mer.
Ils sont ravis de changer d'air. Ce soir, ces enfants seront au bord de la mer.
J'ai fait seconde et j'aimerais beaucoup passer les vacances à Kibi. J'aimerais goûter à la plage et me baigner. Après Kibi, j'aimerais aussi aller un peu au village. Rester avec mes grands-parents.
Kibi, et toi là, j'aime la plage.
Les parents sont d'accord pour divertir les enfants, mais pas que.
Ici, là, on est sans millimètre. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'amener les enfants là-bas. Et là-bas, ils sont plus sécurisés par rapport à ailleurs. Parce qu'on sort de l'Est. Et j'ai préféré qu'ils aillent à Saint-Mélima parce que là-bas, c'est bien.
Ils vont aller au village, Fomban, pour se familiariser avec la grande famille et apprendre aussi la langue maternelle.
Vacances, loisirs pour les 2 mois à venir. Pendant ce temps, il faut oublier ses cahiers, ses livres et dans la mesure du possible, apprendre à connaître le Cameroun en parcourant d'autres milieux et faire connaissance avec sa grande famille.
La période de vacances entraîne le déplacement des populations et les lieux d'embarquement et de débarquement sont des agences de voyage. Ce mardi 18 juin, à la gare routière d'Mvan, à l'entrée sud de la ville de Yaoundé, certains passagers disent attendre pendant plusieurs heures. Une longue attente qui suscite de l'anxiété. Notre reporter Valentin Kouadeu de CRTV Centre a capté l'ambiance qui prévaut dans quelques agences de voyage à Mvan. Voici son reportage.
Agence de voyage au quartier Mvan ici à Yaoundé, de nombreux passagers attendent embarquer. Dans cette agence de voyage qui dessert les régions de l'Est, de la Damawa, du Nord et de l'Extrême Nord, c'est l'anxiété. Cette dame couchée sur une natte dit être là depuis plusieurs heures.
Je pars à Guédiguès, je pars au village. Je suis là depuis 7 heures. Elle a dit qu'on part à 11 heures.
À côté d'elle, cet homme est aussi à l'attente.
Je voyage avec toi. Depuis 6h30, on n'a pas de voiture.
Dans cette autre agence de voyage, c'est le soulagement pour ceux des passagers qui embarquent déjà. Cette dame vient de manquer son départ.
Je vais à Evolova, dans mon village. Vu que j'ai raté les premières voitures, mais je pense que tout à l'heure, je vais partir.
Les dispositions ont été prises pour limiter les accidents, comme l'explique Serge Chamo, le chef d'agence.
Beaucoup plus dans la sensibilisation du personnel navigant sur le comportement pendant le voyage. Il y a une équipe spéciale qui veille de jour comme de nuit pour que nos véhicules soient dans les très bonnes conditions de voyage.
En cette période d'intense trafic, les responsables en charge des transports recommandent la prudence.
Le Hadj vit ces dernières heures. Les pèlerins camerounais s'apprêtent à rallier Maka pour la suite et la fin du pèlerinage. Ils viennent d'achever un séjour de 3 jours à Mina, une vallée qui concentre l'essentiel des rites du pèlerinage en Terre Sainte. Point culminant de cette étape, la station d'Arafat, qui est pour le musulman le jour du parachèvement de la religion islamique et de l'accomplissement de la grâce. Retour sur ces séquences fortes avec Mohamed Nana, l'un de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite.
De petits pas sur la route du Hadj, de grands dans la spiritualité. Dans la vallée de Mina, les pèlerins camerounais ont marché sur les traces du messager de l'islam. La première halte, c'était à Arafat. Méditations et prières sur la montagne de la miséricorde, où le prophète Mohammed a accompli le dernier acte de la prophétie, mettre un sceau à la religion en l'an 632. Au pied de cette montagne, les Camerounais ont uni leur voix et leur cœur à travers la prière pour que le Cameroun et son illustre chef, le président de la République Paul Biya, demeurent dans les bonnes grâces d'Allah. Après cette étape, les pèlerins ont mis le cap sur Moustalifa pour une nuit de méditation à même le sol, avec pour toi le ciel. Le prophète de l'islam en son temps l'avait fait en partance pour le pèlerinage. C'est dans cette localité située entre Arafat et Mina que les fidèles ont fait des provisions de cailloux pour lapider le diable, représenté par 3 stèles. Alors que la page de Mina se referme, s'ouvre alors le dernier chapitre de ce Hadj, le Tawaf à la Mecque, et les allées et venues entre Al-Safa et Al-Marwa. Mina, Ousmaïla Toukour, Mohamed Nana, Sierre TV.
Intégration économique et marché commun sous-régional, investir sur les PME locales pour leur rayonnement en zone CEMAC, CEAC. C'est le thème de la 2e édition du Forum économique Afrique centrale qui se tient dès demain, 19 juin à Yaoundé. Près de 1000 participants sont attendus à Yaoundé pour ces 3 jours de travaux. Voici les explications du directeur scientifique du Forum, Dr Marcim Emagna, est au micro de Sylvain Yangman.
Le Forum économique a pour objectif cette année de répondre à 2 préoccupations centrales. La première, c'est comment est-ce que nous boostons l'intégration régionale et le commerce, le marché commun. L'Afrique centrale est l'une des rares régions à avoir depuis 20 ans mis en place une zone de libre-échange continentale à côté de l'Union douanière qui est gérée par la CEMAC. La zone de libre-échange d'Afrique centrale vient avant la zone de libre-échange continentale qui est l'agenda d'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel nous devons pouvoir travailler pour accompagner le processus puisque depuis 20 ans, justement, sont mis en place à un rythme un peu lent. Le deuxième aspect, c'est la nécessité de prendre en compte le secteur privé, qui est quand même le moteur de la croissance. Et donc, il s'agit ici de voir quels sont les éléments, les instruments, les outils qu'on met en place pour pouvoir accompagner l'investissement pour nos PME et nos PMI.
Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, CTIC, Armand Claude Abanda, poursuit sa visite de travail en France. Ce mardi, en compagnie du docteur Akomja Avom, conseiller culturel de l'ambassade du Cameroun en France, Armand Claude Abanda a eu des échanges avec un groupe d'anciens de l'IAI Cameroun disponibles pour aider à la recherche des partenariats universitaires. Également au programme, des rencontres avec des responsables universitaires pour négocier la création au sein de la chaire UNESCO d'élaboration technologique de haut niveau. Le président du bureau de section RDPC Nyon Infumu Nord, maire de la commune d'Ayos, Paul Ndongo Bikor, a le plaisir d'inviter les présidents des 44 bureaux de sous-section à prendre part à une importante réunion relative à l'évaluation des activités du parti à la base qu'il présidera personnellement le jeudi 20 juin dès 10h à la salle des actes de la mairie. Le président du bureau de section compte sur la présence effective de tous. En sport, 23e championnat d'Afrique senior d'athlétisme. Dans 3 jours, la ville de Douala va vibrer au rythme du plus grand événement sportif continental. 5 délégations étrangères sont déjà sur place. Les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme arrivent ce mardi. La compétition va mobiliser près de 800 athlètes venant de 54 nations. Ce sera du 21 au 26 juin prochain. Présentation de la compétition, Didier Marius et Tundi.
C'est un galop d'essai pour certains athlètes. Une dernière compétition qualificative pour d'autres. Les derniers tickets aux Jeux Olympiques Paris 2024 seront distribués. Le championnat d'Afrique d'athlétisme met donc en vitrine les meilleurs athlètes de la mer des disciplines. Durant 6 jours, ils vont rivaliser d'adresse et de talent sur les pistes du complexe sportif de Japuma et dans les sautoirs. Plusieurs épreuves au programme pour les sprints 100, 204, 100 et 800 mètres, puis 5000 mètres et 10000 mètres pour les courses de fond, les épreuves de saut en hauteur, en longueur et triple saut, les lancers de poids javelot et lancers des disques. Les meilleures performances africaines et même mondiales sont attendues à Douala, à l'instar d'Emmanuel Essémé, médaillé d'or aux récents Jeux africains à Accra au Ghana, ou alors le Kenyan Ferdinand Omanyala, le détenteur de la meilleure performance mondiale de la saison sur l'épreuve reine, 9 secondes 79 réalisées le 7 juin dernier. Tous les athlètes sont déjà dans les starting blocks au complexe sportif de Japuma.
À handball, championnat national d'élite 2024, la succession de FAP en messieurs et de FANS en dames est ouverte. Les favoris ont tous réussi leur entrée dans la compétition le week-end lors de la première journée. Jean Armstrong Joe.
La Fondation André Zico, champion d'âme du Cameroun en titre, a ouvert son compteur de victoires de la saison à Bertois. L'équipe s'est largement imposée sur le club local Soleil Levant 30-12. En seconde rencontre jouée toujours dans la région de l'Est, la version masculine de France n'était pas sûre du velours face à Soleil Levant homme qui l'a battu 25-21. C'est à Boéa que le champion en titre masculin, les forces armées et police ont fait leur premier pas de la saison. L'université de Boéa a plié les Chines 27-21 après avoir été menée 16-5 à la mi-temps. Le deuxième club du sud-ouest est venu facilement à bout de Spartiate de Yaoundé 37-30. À Yaoundé, Yukdam a fait une bonne entrée en compétition. Les filles du coach Rabelais Oscar Alanchi l'ont emporté sur Dynamique de Bokito 36-21.
C'est le travail, on essaye de donner ce qu'on a aux enfants. On a commencé pas très tôt, mais comme il y a beaucoup qui étaient aux Jeux universitaires, ils ont encore un peu des bribes de la préparation des Jeux universitaires. On va continuer à travailler pour avoir une équipe un peu plus forte dans les jours à venir.
Deux matchs se sont disputés à Douala. TKC chez les dames a laminé HBC de la ville 32-15 et chez les hommes, Friendship a battu Renaissance de Douala 21-19. Baham a abrité une rencontre. Fab Dam a été au-dessus de Diva de Baham 32-22.
Vous écoutez le 13h. Voici à présent le condensé des nouvelles du jour en anglais. Il est présenté par Manka A. Ambi.
Good afternoon. U.S. Congressman French Hill and Congresswoman Chrissy Houlahan, who both serve on the House Oversight Committee on Intelligence, have hailed the government of Cameroon for joining forces with the U.S. to fight against terrorism in the Lake Chad region. The U.S. representatives were speaking today Yaoundé during a meeting with the Prime Minister, head of government, Joseph Dangote. The members of the U.S. Congress, who were accompanied by U.S. Ambassador to Cameroon, Christopher John Lamora, also made an overview of bilateral relations between Cameroon and the United States with the Prime Minister, head of government, Joseph Dangote, during the audience. The sum of over 6 billion CFA francs will be injected into livestock production in the days ahead in Cameroon. This follows a partnership agreement signed today between the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industries and the Commercial Bank of Cameroon. Minister Tiger signed on behalf of government, while the Deputy Director General of the CBC Bank, Jean-Élisée Gauthier, signed on behalf of the financial institution. The ceremony was attended, among others, by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairoubé, and the Minister Delegate to the Minister of Finance, Yaouba Abdoulaye. Rehabilitation works on the Etudi Market, Yannick Noah Roundabout, have been launched in Yaoundé today by the city mayor of Yaoundé, Luc Atangana Messi. According to the city mayor, this will ease the movement of goods and persons, which has been a nightmare for over 10 years. The project is expected to last for 6 months. In sports, Cameroon will in 2 days begin hosting the 23rd Africa Athletics Championship, considered the continent's biggest athletic jamboree. As the competition draws near, last-minute technical preparations are underway at the Japuma Sports Complex in Douala. The competition will feature more than 1,000 athletes from 54 member countries competing for medals in 45 disciplines. We'll develop the stories for and more for you at 3 p.m.
Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative informe l'opinion publique qu'il a présidé le 13 juin 2024 la 7e session du comité interministériel chargé de l'assistance du prestataire, du suivi et du contrôle du projet de mise en œuvre d'un nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde. Y ont pris part le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, des représentants de la présidence de la République, des services du Premier ministre, ainsi que ceux des différents administrations impliquées dans ce processus. L'ordre du jour a porté essentiellement sur 4 points, à savoir l'examen et l'adoption du rapport d'activité du comité pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024, la présentation du niveau de réalisation des travaux de mise en œuvre du nouveau système, l'approbation du plan d'action 2024-2025 et le choix d'un nom de baptême du nouveau logiciel. Au terme des échanges riches et fructueux, le comité a marqué son entière satisfaction quant aux avancées enregistrées dans la mise en œuvre du nouveau système à la suite des tests à blanc réalisés avec succès de 13 modules sur 14 qui ont été amorcés depuis le 2 janvier 2024. Aussi a-t-il été recommandé le lancement du processus de démarrage à partir du 14 juin 2024 du fonctionnement en parallèle avec le CIGIPES 1 du nouveau logiciel baptisé Aigle. Entendez, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. D'une part, et de parachever l'intégration des données relevant des corps à statut spéciaux et de finaliser la mise en service du 14e module, d'autre part. En outre, le comité a donné mandat au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, maître d'ouvrage, d'enclencher les procédures nécessaires devant aboutir à un paiement partiel des prestataires conformément aux clauses contractuelles. Fait à Yaoundé le 13 juin, le président du CIM, Joseph Lé, le coordonnateur de la Tax Force, Edou Allo Cyril. À retenir de cette édition qui s'achève, concertation entre Yaoundé et Washington à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a reçu ce matin en audience une délégation des parlementaires américains qu'accompagnait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christophe Lamoura. Au menu des échanges, les questions sécuritaires, sanitaires et humanitaires. 13h32 à Yaoundé, c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un excellent après-midi.
C'était les informations du Cameroun et du monde. Merci Marie-Françoise Ewolo et merci également à toute l'équipe de la rédaction Centrale Radio pour la présentation et la production de ce journal de 13h. 13h32, Cameroun Magazine se poursuit dans sa deuxième partie. À ses micros, Londres Simo Nyebisi.